France Culture.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre conversation littéraire. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir deux grands romanciers français, deux figures de la littérature française contemporaine, Jean Echenoz et Olivier Rollin. Chacun est séparément publié une nouveauté, parue en janvier 2025, un récit de voyage aux îles Éparses pour Olivier Rollin, un roman intitulé Bristol pour Jean Echenoz. Nous y reviendrons bien sûr tout à l'heure. Mais si j'ai choisi de les réunir, c'est aussi pour parler d'amitié, de leur amitié, et peut-être plus généralement pour se demander s'il existe quelque chose comme une amitié littéraire et si celle-ci serait différente d'une amitié tout court. Bonjour Jean Echenoz.
Bonjour.
Vous êtes romancier, vous êtes l'auteur de 16 romans parus aux éditions de Minuit, si j'ai pas mal compté. On peut citer entre autres Cherokee en 1983, Je m'en vais en 99, Ravel en 2006, 14 en 2012 et donc Bristol en 2025. On vous doit aussi des nouvelles et des scénarios pour le cinéma. On verra que ça a peut-être une importance pour le roman qui nous intéresse aujourd'hui. Et bonjour Olivier Rollin.
Bonjour.
Vous êtes vous aussi romancier, auteur de 13 romans et récits parus aux éditions du Seuil, puis aux éditions Gallimard et Verdier, parmi lesquels on peut citer Phénomène futur en 1983, Méroé en 1998, Tigre en papier en 2002 ou encore Veracruz en 2016, roman auquel il faut ajouter toute une série de récits de voyage depuis En Russie en 1987, Bakou dernier jour en 2010 et en 2025 Vers les îles éparses, rehaussé de dessins en couleur et paru aux éditions Verdier. Olivier Rollin, Jean Echenoz, est-ce que vous vous rappelez votre première rencontre ?
Ah, moi je m'en souviens très bien, c'était en 1983 dans un studio de radio, nous présentions Olivier son premier roman et moi le deuxième. Une radio Nanterre, je crois, c'était l'époque encore
de Radio Libre.
Radio Libre, voilà. Oui. Voilà, on s'est un peu observé, puis on a discuté, et puis on a continué à discuter depuis un peu plus de 40 ans maintenant.
Et Olivier Rollin, ce souvenir coïncide avec le vôtre.
tout à fait. J'ai rien à ajouter. C'était en effet le temps des Radio Libres, et voilà, et on s'est rencontrés là-bas il y a 42 ans.
Oui,
voilà.
C'était en 83, 42 ans.
Donc c'était pour Phénomène futur pour vous
Oui.
Et qu'est-ce qu'on se dit alors après, quand on discute Est-ce qu'on se lit d'abord, après, dans les jours qui suivent? Est-ce que vous êtes aussi des lecteurs l'un de l'autre?
Ah, oui, bien sûr. Enfin, bien évidemment, oui. Oui, enfin, moi j'ai lu tous les bouquins de Jean, à l'exception, bizarrement, de celui qui a eu le prix Goncourt. Non pas par rejet de ce prix, mais on a eu un petit froid dans nos relations à ce moment-là.
Ben oui, comme toutes les amitiés, voilà. Il y a des moments d'agacement et puis de retrouvailles qui sont très émouvants. Mais oui, je pense que pendant un an ou deux, on se
voilà.
Parlait
moins. Donc tu m'as pas envoyé ton bouquin. Donc oui. Ça m'aurait fait mal de l'acheter.
Je crois qu'en retour, je n'ai rien reçu de
voilà,
Olivier
doute,
pendant
oui.
quelques temps.
Et mais
puis
enfin,
après, c'est reparti.
À l'exception, cette regrettable exception, oui, j'ai lu tous les bouquins de Jean, oui, bien sûr. En fin de compte, il est assez rare qu'on parle de nos livres, enfin, je veux dire,
on n'en parle pratiquement jamais. Voilà. On parle d'autre chose, on boit des coups.
Mais, on dit des conneries.
On dit beaucoup de sottises et on évite, je crois, assez assidûment de parler de ce qu'on fait, parce qu'en vérité, ça n'a pas énormément d'intérêt, c'est des affaires entre soi et soi, et il arrive qu'on se plaigne, ça c'est assez fréquent, de la difficulté du travail, ou d'un moment, d'une impasse dans laquelle on se trouve, mais non, en général, on évite ce sujet.
Est-ce que c'est peut-être une des conditions de l'amitié entre écrivains, justement, peut-être, que d'éviter ce genre de sujet, Olivier Rollin ?
Oui, j'imagine. Je n'en sais rien, à vrai dire, voyons que je réfléchisse. J'allais dire, j'ai pas tellement d'amis écrivains, mais si, quand même, j'en ai quelques-uns. Mais enfin, je leur parle de leurs livres, qu'en général, qui m'intéressent, que j'aime, bon. Voilà, je leur parle de leurs livres quand ils sortent, je leur dis que je les ai lus, et voilà, et ce que j'en pense, mais ça ne va pas au-delà, quoi. Et je crois que c'est mieux, enfin, de toute façon, il y aurait quelque chose de ridicule, quoi, enfin, d'un peu vaniteux, enfin, si on parlait entre nous de nos œuvres.
Puis il est vrai qu'on écrit des choses tellement différentes que ça c'est assez pratique parce qu'on on ne travaille pas sur les mêmes territoires, disons, stylistiques, géographiques, que sais-je. Et donc on peut s'observer, on peut observer ce qu'on fait mutuellement, mais on n'est pas dans le même bâtiment, si je puis dire. Donc ça c'est pas mal non plus, ça simplifie l'amitié.
Mais je crois que, enfin il me semble, je sais pas si tu seras d'accord, qu'une partie importante de nos œuvres croisées, malheureusement, sera perdue à tout jamais. Ce sont les innombrables conneries qu'on se dit par SMS, voilà, des blagues de garçons de bain, des jeux de mots, d'histoires comme ça, des vacheries éventuellement vis-à-vis d'autres collègues, comme on dit. Enfin bref, et toutes ces choses-là, qui autrefois se seraient passées, enfin, auraient été par écrit, enfin, auraient été sur du papier, quoi, et auraient pu être... archivé, avec certainement un grand profit pour les chercheurs à venir.
Et les générations futures.
Voilà, sera perdu, quoi.
Oui, il y a eu hier soir quelques échanges de SMS en prévision de cette rencontre. Ce matin, quelques échanges de SMS sur nos parcours comparés pour venir chacun de son domicile jusqu'à la maison de la radio. Donc, on se tient au courant, de façon assez assidue, quand même, de nos étapes.
Alors, poursuivons un peu cette exploration des formes d'amitié en littérature et écoutons un écrivain français décédé il y a peu.
À un colloque de Cerisy en 1977, Barthes a relié l'amitié à la notion grecque d'akouloutia et voici ce qu'il dit. Akouloutia, le dépassement de la contradiction, j'interprète la levée du piège. Or, akouloutia a un autre sens. Le cortège d'amis qui m'accompagnent me guide auquel je m'abandonne. Alors c'est très beau cette notion d'abandon. Et avez-vous le sentiment qu'il s'est abandonné avec vous et vous-même d'ailleurs n'êtes pas le genre d'homme qui s'abandonne?
Pas du tout. C'était pas une question d'abandon. Là, vous trouvez quelque chose qui chez Barthes était tout à fait... évident, il a écrit là-dessus, fragment d'un discours amoureux, etc., etc. C'est-à-dire, il s'entourait, en effet, d'un confort d'amitié. Et donc, il avait autour de lui toute une cour que je ne fréquentais nullement. Quand on se voyait, c'était avec nos différences qui sont grandes, non seulement de sexualité, mais aussi de religion, puisque c'est un protestant et je suis un catholique. Ça n'avait aucune importance. Qu'est-ce qu'on faisait? Et c'était pour ça que c'était intéressant, l'intellectualité des relations, la passion pour la littérature était immédiatement beaucoup plus intéressante que tous les rapports sociaux de copinage ou d'amitié ou d'amicalité ou de cour.
Nous venons d'entendre Philippe Solers au micro de Charles Danzig en 2015 évoquer son amitié avec Roland Barthes. Jean Echenoz, Olivier Rollin, vous avez tous deux le même âge à quelques mois près. Mais est-ce que comme Philippe Solers et Roland Barthes, vous avez entretenu des amitiés avec des écrivains plus âgés que vous lorsque vous commenciez dans le métier d'écrire, Olivier Rollin?
L'amitié, c'est peut-être beaucoup dire, mais j'ai eu quand même des rapports confiants et dans lequel il y avait de l'émotion, de mon côté en tout cas, avec un écrivain nettement plus âgé que moi, qui est argentin, qui n'était pas Borges, mais qui était Ernesto Sabato, voilà. Et il se trouve qu'à l'époque, je voyageais pas mal, enfin j'ai continué d'ailleurs, mais enfin j'ai été pas mal de fois en Argentine à l'époque, et des époques qui étaient assez dures, etc. Et Sabato m'avait toujours accueilli très généreusement, et puis ensuite lu mes livres, tout ça, enfin bon. Bref, moi je lisais les siens, bien sûr, enfin il n'y en a pas beaucoup, lire, puisqu'il a détruit la plupart de... Enfin voilà, oui, j'avais des rapports, disons, confiants et un petit peu filiaux avec Sabato.
Et vous, Jean-Richard?
Oui, quand j'ai commencé à publier, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Chailloux, Jacques Roubaud, c'est des amitiés qui étaient pas très rapprochées, mais on se retrouvait souvent avec plaisir, oui. J'ai un peu croisé les grandes figures des éditions de Minuit, Laurent Grillet surtout, mais ça c'était occasionnel.
Mais est-ce que c'est important, ou ça a été important pour vous, est-ce que l'amitié des livres en elle-même était plus importante que celle des personnes physiques, ou au contraire, est-ce qu'il se passe quelque chose quand même dans une présence, qu'elle soit presque paternelle, filiale ou pas? Olivier Rollin.
Je me suis aperçu assez tardivement, je pensais avoir admiré beaucoup d'écrivains, mais n'avoir jamais été influencé par aucun. Et je me suis aperçu récemment que, en tout cas dans mes premiers livres, par exemple celui que je venais de publier quand on s'est connus, là, Phénomène futur, qui sont des livres qui sont très différents, à vrai dire, de ce que je fais maintenant. Mais enfin bon, justement, cette amitié, enfin, lointaine avec Sabato, cette admiration, notamment pour, enfin, son plus grand livre qui s'appelle Héros et tombes, sobre héros y tumbas, bon. Eh bien, m'a sans doute influencé. Peut-être pas pour le mieux, d'ailleurs, dans mes débuts. Je veux dire par là qu'à l'époque, j'en tirais surtout un sens du dramatique, de l'obscurité, enfin, quelque chose d'un peu sombre, quoi, voilà.
Oui, il y a un roman qui s'appelle Barre des flots noirs.
Enfin, voilà, qui est mon plus mauvais livre, d'ailleurs. Donc voilà, j'ai mal tiré les leçons des lectures de ces livres, mais il m'a tout de même un peu influencé au début, en effet, oui.
Jean Echenoz.
Ah, du côté des influences, vous voulez dire?
Non, pas forcément, mais tout simplement, est-ce que il se passe quelque chose dans l'amitié qui est proprement littéraire, ou au contraire, est-ce que c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, surtout le plaisir d'une forme d'humanité qui est peut-être même éloignée de la littérature, ou qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec elle?
Non, je forçais un peu le trait tout à l'heure en disant qu'on échangeait surtout des propos badins, mais on parle quand même pas mal de littérature aussi, mais c'est quand même ce qui nous réunit, ce qui nous intéresse et ce qui nous fait vivre. Mais si on revient à la question des influences, je citais mes rencontres de temps en temps avec Rob Grier. Je sais que le roman de Rob Grier qui s'appelle Les Gommes, que j'ai lu, je sais pas, je devais avoir 18 ans, a été, je me rends compte, assez important sur certains points par rapport aux objets, tout ça, du traitement des objets. C'était une influence très ancienne, mais dont j'ai retrouvé les effets par la suite. Et du côté des amitiés, à la fois amitié et influence, il y a eu quand même celle, au pluriel, de Jean-Patrick Manchette, qui a pas mal compté pour moi dans les années 70-80. Et ensuite.
Ah oui, et ses romans aussi.
Et ses romans, bien sûr. Au départ, ses romans. Ensuite, on s'est connus. Mais c'était au départ à la fois l'humour, la distance, la fausse sophistication, enfin des choses comme ça qui me frappaient et qui ont certainement joué dans des choses de mon écriture.
Et peut-être aussi une liberté avec le genre, c'est-à-dire justement une liberté avec ce qu'on pourrait appeler le roman policier, le roman noir.
Bien
sûr. Des codes avec lesquels vous jouez depuis le départ.
Oui, d'autant plus que mon premier livre, c'était à la fin des années 70, c'était une période où le roman romanesque, disons, était un peu dans une position de faiblesse. Et moi, je voyais une respiration possible, plutôt du côté des littératures dites mineures, surtout le roman policier qui m'intéressait. Le projet initial de mon premier roman, c'était un roman policier pur. Or, je me suis aperçu ensuite que je partais dans des directions qui m'éloignaient de ces codes, de ce canon.
Alors, qu'est-ce que ce serait qu'une amitié littéraire? Est-ce que ça aurait un sens pour vous, Olivier Rollin?
Voyons, c'est ce dont nous parlons depuis quand même quelques minutes. Qu'ajouter, non, autant, en effet, ce que nous écrivons ne forme pas l'ordinaire de notre conversation, autant je pense qu'il serait difficile que nous ayons des relations très amicales si l'un et l'autre ne savaient pas que, comment dire, qu'on a une confiance mutuelle et une appréciation mutuelle quand même dans ce que l'autre écrit, quoi. Tout cela est quand même, en général, non dit, mais extrêmement important et va de soi. J'aurais du mal à être très ami avec un écrivain dont je mépriserais les livres, quoi.
Mais même si on va plus loin, est-ce que l'admiration est quand même une partie de l'amitié?
Ah, certainement. L'admiration est d'autant plus intéressante que, comme je le disais tout à l'heure, nous travaillons vraiment dans des formes et dans des propos, pour autant qu'on fasse une littérature de propos, ce qui n'est pas vraiment le cas, je crois, très différents. Moi, je pense à, enfin, pour évoquer des figures avec la plus grande humilité, je pense à une amitié littéraire qui m'a toujours frappé, séduit et intrigué. C'est celle qui existait entre Henry James et Robert Stevenson, qui écrivaient quand même des choses extrêmement éloignées les unes des autres et qui avaient, eux, une véritable correspondance littéraire avec des considérations auxquelles nous ne nous élèverons jamais, sans doute. Et là, c'était une amitié littéraire où il y avait vraiment des échanges sur le travail. Nous, par modestie ou par impuissance ou par pudeur, on parle pas trop de ça. Mais il est très intéressant de lire les échanges entre James et Stevenson parce que ils se rencontrent et ils se trouvent, ils se conseillent et ils s'admirent. Et tout ça dans des commentaires théoriques et pratiques sur les littératures qui sont passionnants.
Il y a une phrase qui me vient à l'esprit, là, de Roland Barthes encore, qui dit à peu près, enfin, je me souviens plus de la formulation tout à fait exacte, mais qui dit que les œuvres qu'on aime, qu'on admire, etc., il y a quelque chose qui leur manque, c'est qu'on ne les a pas écrites nous-mêmes. Bon, ça fait défaut, quoi. Voilà. Eh bien, je pense qu'il est nécessaire aux amitiés littéraires qu'on ait quelquefois envie d'avoir écrit soi-même ce que l'autre a écrit.
Et bon, il y a un propos de Sartre qui me revient, c'est sa détestation des conversations d'idées. Et ça, je pense que je le comprends assez bien.
Mais est-ce que vous avez voyagé ensemble, par exemple? Parce que s'il y a quelque chose peut-être qui rejoint vos livres et vos œuvres, c'est un souci de la géographie, la présence des noms de lieux. Et est-ce que vous avez déjà parcouru un peu la planète? Alors pas forcément des endroits très lointains, mais en tout cas, est-ce que vous avez voyagé ensemble?
Olivier est un grand voyageur. Moi, je suis un voyageur nul, mais quand même, on a fait un voyage. J'ai toujours besoin d'être accompagné, rassuré, alors que lui se lance dans l'espace en solitaire, en se retrouvant à Oulan-Bator à 3h du matin. Bref, il y a eu une période où on s'est retrouvés, il y a pas mal d'années, il y a une trentaine d'années peut-être, en Floride, où on était invités dans une fondation, où on était quelques auteurs, quelques écrivains réunis pour travailler personnellement. Et le résultat était un projet commun qui a été un échec lamentable. Mais sinon, je n'ai pas le souvenir qu'on ait beaucoup...
Si, on a voyagé à l'époque où il existait des relations presque amicales entre la France et la Russie. Nous avons tout de même
pris un transsibérien.
Des écrivains, Blaise Sandrard. Et je crois que Mathias Sénard, vous y étiez aussi. Et donc, on a quand même été ensemble d'Irkoutsk à Vladivostok.
En effet. Mais je me souviens qu'Olivier prenait énormément de notes et moi absolument aucune. Voilà. Alors déjà, c'était.
Alors pas intéressé du tout par le paysage, tout ça.
Les sapins, les bouleaux. Bon. Mais même si je prenais pas de notes, il y a des choses qui s'impriment quand même dans la mémoire et dont on se dit qu'on pourra les transformer, les utiliser.
Mais je reprends un peu la balle au bond sur ce projet commun. Ça, c'est assez fascinant d'avoir un projet commun en Floride sur un projet d'écriture, même si celui-ci est tombé à l'eau. Vous avez essayé quand même de travailler ensemble, pourrait-on dire?
Si je me souviens bien, c'était un peu la règle. Enfin, il y a toujours des espèces de chartes comme ça pour les résidences écrivains. Ça devait être un peu ce qui était requis, non ?
Je n'ai pas le souvenir.
On n'était pas contraints.
Non, c'est comme ça se passait très bien. On est resté, je sais pas, un mois et demi peut-être. Oui. En fait, le moment important pour moi et pour nous d'ailleurs, c'était d'assister, quand on était en Floride, pas très loin de Cap Canaveral, on a assisté au départ d'un engin spatial. Mais bref, comme ça se passait très bien, plutôt dans l'amitié, on avait conçu le projet de faire un petit recueil de nouvelles à propos d'un personnage imaginaire. Ce recueil a été malheureusement publié. Je pense qu'il a battu un record de mes ventes tout à fait justifié. Et c'est pas la chose dont nous sommes le plus fiers, mais en fait, ça scellait un peu l'amitié.
Il faut dire tout de même, la modestie de Jean l'empêche de le préciser, mais enfin que l'invité en chef, c'était lui. Et puis, il avait le droit d'inviter des amis à lui. Enfin bref, donc moi, j'ai bénéficié de son hospitalité. Et je dois dire que c'est un des souvenirs les plus agréables de ma carrière, si j'ose dire, que je garde. Bon. Et autre chose, pour moi, ce livre, en effet, absolument foireux, n'a pas été tout à fait inutile, puisque la petite partie que j'avais écrite m'a servi ensuite, a été le point de départ d'un livre dont je suis, en revanche, immodestement assez content, qui s'appelle Veracruz. Voilà.
Ah oui, effectivement. Ah,
oui, les confessions d'un curé défroqué, libidineux, mexicain, là, c'était ma contribution à l'ouvrage collectif.
À part Olivier et moi, il y avait eu Harry Matthews, Patrick Deville, Florence Delay, Marc Polizzotti, qui est mon traducteur et qui est l'auteur d'une histoire du surréalisme importante. Non, c'est devenu une petite bande qui était pas mal. En vérité, nous passions la plupart du temps de notre journée à la plage et la plupart de nos soirées dans des bars.
Ça s'appelait les The Breakers.
The Breakers, dont nous avons gardé, je crois, les sous-bocs.
Oui.
Voilà.
Oui, donc ça résume bien votre amitié, finalement, des discussions à bâton rompu dans un bar et puis voilà, un peu de...
Un peu
plage.
De
plage.
Ah, oui, plage.
Ah, pas mal de plage.
pas mal de plage. Un point de contact, vraiment, j'y reviens, entre vos livres, c'est l'aspect géographique. On va le voir, d'ailleurs, dans vos romans, Jean Echenoz, Olivier Rollin, il y a ce goût pour le voyage, pour une curiosité voyageuse, de façon peut-être très différente, mais en tout cas, dans beaucoup de vos romans, Jean Echenoz, on s'enfuit quand même, on part, on se déplace dans les endroits lointains, la Malaisie, le Grand Nord, la Corée ou Iquitos, au Pérou, par exemple, à la lisière de la jungle, là, on va voir en Afrique, avec Bristol. Mais pourtant, pour vous, j'ai l'impression que c'est plus des voyages qui sont dans des noms de lieux, alors que vous, c'est plutôt les lieux en eux-mêmes. Ce serait peut-être un peu la différence entre vous deux, Olivier Rollin.
Oui, enfin, les noms comptent beaucoup aussi.
Bah, les îles Éparses.
Mais par exemple, oui, îles Éparses, ça me plaisait plus que, je ne sais pas moi, que l'île de Wight. Bon, non, îles Éparses, c'était, oui, mais... comment dire, m'incitait à aller là-bas. Enfin, encore que je suis allé parce qu'on me l'a proposé. C'est pas moi qui ai choisi, mais non, les noms comptent beaucoup. Il m'est arrivé de citer un vers un peu lyrique, disons, d'un poète belge oublié qui s'appelle Marcel Thierry, et c'est le titre de son recueil « Toi qui pâlis au nom de Vancouver ». Bon, voilà, je suis du genre qui pâlit au nom de Vancouver, oui.
Et alors, qu'est-ce que ça vous évoquait, les îles éparses? Parce qu'on va rentrer un peu dans les détails du récit avant de partir.
Avant de partir, je m'étais renseigné un peu quand même. J'avais lu des articles dans Le Monde, je pense, sur ces îlots dans le canal du Mozambique. Et puis avant de partir, quand même, j'avais regardé, comme tout le monde le ferait, sur Internet, etc. Je savais où ça se trouvait. Je savais des deux ou trois choses qu'il convient de savoir sur les îles éparses. Il n'y a pas beaucoup d'histoire des îles éparses, quoi.
Mais Olivier Rollin, ce qui est aussi fascinant, et c'est comme ça que s'ouvre le récit, c'est les circonstances de ce voyage comme une forme de rétribution, oui, assez étrange quand même, qui vous permet de vous rendre aux îles éparses.
Oui, bon, alors j'avais été prié par un amiral assez lettré qui dirigeait l'école de guerre et qui avait la bonne idée de rééditer des grands textes sur la guerre, et donc il voulait rééditer l'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Et il m'avait demandé, enfin pour être plus précis d'ailleurs, il avait demandé à mon frère qui avait par paresse refusé, décliné, mais
votre frère
dit,
Jean Rollin, qui est lui aussi auteur et écrivain de marine.
Voilà. Et donc, mon frère Jean m'avait fait cette vacherie au début, qui finalement était une chose dont je suis très reconnaissant. Il avait dit, mais mon frère, en revanche, donc moi, je pourrais écrire là-dessus, etc. Donc j'ai fait cette préface, je connaissais en effet un peu Thucydide, enfin j'ai relu, et j'ai fait cette préface. Et comme ils n'avaient pas un rond pour me payer, ils m'ont proposé d'embarquer sur un bateau de la Marine nationale qui allait ravitailler ces îlots, donc, dans l'océan Indien. Voilà. Et c'était évidemment une rétribution bien plus magnifique.
Ce qui pourrait presque être fictionnel, c'est que c'est quand même presque la guerre qui vous amène sur ce bateau de guerre à aller. Oui, c'est quand même, c'est quand même la marine.
Oui, c'est un bateau de guerre, c'est beaucoup dire. Enfin,
il y a
des armes dans des armoires à l'intérieur, mais il n'est pas armé, quoi. C'est ce qu'on appelle un navire auxiliaire. Mais oui, c'est en effet la marine, oui. Dans la guerre du Péloponnèse, ça joue un très grand rôle. La marine, Athènes était une puissance maritime. Donc oui, c'est un petit rapport.
Et ce voyage à bord de l'embarcation qui s'appelle le Champlain, donc, qui vous amène vers les îles éparses, c'est un choc d'abord parce que, contrairement à ce que moi j'imaginais aussi sans doute bêtement, tous les soldats, enfin les marins. Oui, de ce navire sont extrêmement jeunes.
Oui, c'est un petit bateau pour la Marine nationale, c'est un petit bateau qui fait, je sais plus, 70 mètres de long par là. Et donc c'est pas une grosse unité. L'équipage est pas très nombreux, il y a, je sais plus, genre 25 personnes par là. Et comme c'est une petite unité, eh bien oui, le commandant a 35 ans. Et donc, comme en principe, les autres sont un peu plus jeunes. Donc, disons que la moyenne d'âge, ça devait être dans les 25 ans, oui. Et ils étaient stupéfaits, quoi, de voir une vieille chose comme moi. Ils avaient déjà croisé des vieux comme moi dans la rue, mais ils en avaient jamais vu pendant un mois à leur bord, quoi. Et donc, ce voyage a été, pour moi, d'une part un voyage vers des lieux exotiques, mais d'autre part aussi un voyage vers la, non pas vers la conscience que je n'étais plus jeune, parce que ça quand même je suis pas tout à fait imbécile, je m'en étais aperçu, mais disons c'était la première fois que 25 regards et puis aussi des remarques, etc., me le faisaient sentir, quoi. Donc il y avait des côtés drôles là-dedans, pas toujours drôles, mais enfin il y avait des côtés rigolos quand même aussi. Parce que eux-mêmes me paraissaient aussi tout à fait étranges, à vrai dire.
Le texte est aussi drôle. Aussi drôle que mélancolique, puisque c'est quand même aussi un voyage finalement assez triste. Parce qu'en plus, dans ces îles éparses, dont on voit les paysages, puisque vous les dessinez, en tout cas on aperçoit un peu ces îles grâce à votre crayon et vos couleurs, elles sont plutôt vides d'habitants. Donc il y a déjà un côté assez mélancolique à ce voyage.
Oui, enfin, elles sont tout à fait inhabitées, sauf donc par les quelques militaires qu'on entretient dessus pour empêcher que les autres nous piquent ces îles. Mais en revanche, elles grouillent de vie animale. Bon, enfin, animale, végétale, hein, mais surtout animale. Et ça, c'est magnifique. Il y a un enthousiasme, une joie même à voir la profusion des formes naturelles, la bizarrerie, je veux dire, des crabes avec des yeux qui sont en même temps des plumets, etc., des couleurs inouïes. du marine, des tas de choses comme ça, des oiseaux magnifiques. Enfin bref, il y a vraiment une excitation, oui, joyeuse à voir à quel point la nature, quand on la laisse, quand on l'emmerde pas, quoi, comme on fait partout dans le monde, est somptueuse et profuse, quoi. Voilà. Bon, des tortues.
Et pourtant, le voyage s'ouvre par un premier séjour qui est peut-être le plus long d'ailleurs en réalité sur l'ensemble du voyage, dans une ville, un port d'Afrique du Sud.
Il y a, oui.
Et c'est là que finalement, vous êtes un peu bloqué dans ce port de...
Ben oui, j'étais bloqué parce que... Enfin, j'étais bloqué, non, je me suis beaucoup baladé, mais bon, c'est une ville assez dangereuse, Durban. Et en tout cas, les Sud-Africains étaient venus à bord pour nous expliquer qu'il fallait pas se déplacer seul dans Durban. Mais ma situation de singularité, de bizarrerie dans l'équipage faisait que j'envisageais difficilement de me déplacer en groupe avec eux. Ils avaient des amusements de groupe qui étaient de leur âge, mais qui n'étaient pas du tout du mien. Et je les aurais beaucoup gênés si j'avais été avec eux, et ça aurait été très embêtant pour moi aussi. Voilà, donc j'étais bien obligé de me déplacer tout seul, voilà. Et je me déplaçais un peu au hasard, le long d'autoroutes torrides, enfin voilà. Et il y avait un parc, heureusement, hein, au milieu, un parc avec de l'ombre, des oiseaux, jacassants et tout ça. Ça, c'était bien, je pouvais aller lire là-bas.
Vers les îles Éparses, c'est aussi, je pense, si je me trompe pas, la première fois qu'on vous voit dessiner, en tout cas dans un livre publié. Vous aviez déjà utilisé des images, des photographies dans Bakou,
oui.
Dans votre voyage en Azerbaïdjan. Mais là, vous publiez vos dessins qui sont un peu comme
oui.
des notes.
Sans vergogne, oui. Oui, j'avais publié des petits dessins à la plume dans quelques-uns, très peu, dans le petit bouquin qui s'appelle En Russie. Mais ça fait très longtemps, bon. Comme j'avais pas grand-chose à foutre sur ce bateau, j'étais inutile, évidemment. Et donc je lisais, je prenais des notes, et puis... L'idée m'est venue de recommencer à dessiner. C'est une habitude que j'avais autrefois, mais que je publiais pas mes dessins, mais je dessinais quand je voyageais. Puis je sais pas pourquoi j'avais abandonné ça. Et donc, désœuvré, ayant trouvé une boîte de crayons de couleur, je me suis dit, tiens, je vais... Voilà, oui, je vais...
Olivier Rollin, moi, je l'ai lu comme un... Puisque, justement, il est question beaucoup de nature et d'un rapport presque très, très naturel à la nature, un peu comme une exploration du 19e siècle. Je l'ai lu un peu comme un... Enfin, j'ai vu ses dessins un peu comme un hommage, justement, à ces grands voyageurs du 19e qui étaient à la fois naturalistes, spécialistes, enfin, qui s'improvisaient, en fait, spécialistes de ce qu'ils découvraient à ce moment-là et qui dessinaient, eux aussi, au moins autant qu'ils écrivaient.
Oui, je ne l'ai pas conçu comme cet hommage, mais en tout cas, il me plaît que cela puisse passer pour un tel hommage, oui, en effet. Sauf que il n'y a aucune fonction didactique, en fait, dans mes dessins. Les naturalistes en question, ils dessinaient des oiseaux, des poissons, des insectes, etc., pour faire voir comment c'était. Et moi, non, je dessine. Et en plus, je dois dire, je ne déteste pas ces dessins, sinon je n'aurais pas voulu qu'ils ne parussent dans le livre. Mais, par exemple, mes bleus pâles, les espèces de la vie pâle de la mer, que j'ai vu avec mes petits crayons de couleur, là, que j'ai fait, ne rendent absolument pas compte de la profusion inouïe du chatoiement des bleus, quoi, des bleus de la mer autour des atolls, autour des îles. Bon. Donc, ils sont pas très indicatifs, mes dessins.
Et alors, ces îles éparses se trouvent donc dans ce qu'on appelle le canal de Madagascar.
Canal du Mozambique.
Canal du Mozambique, pardon. Donc, au nord de Madagascar.
Entre Madagascar et la côte du continent africain.
Et les cieux sont bien évidemment ceux de l'hémisphère sud. Et on croise cette croix du sud que vous voyez. Est-ce que c'est aussi une poésie très différente que se retrouver dans un paysage même des constellations dont on n'a pas l'habitude
moi j'aime beaucoup les noms je suis un petit peu marin malgré tout ce que ne savaient pas les types quand ils m'ont accueilli là et j'aime beaucoup les étoiles, regarder les étoiles, je connais un peu, c'est repéré un certain nombre de constellations de l'hémisphère nord. Et donc, ça me plaisait d'en découvrir de nouvelles. J'avais des petits guides d'étoiles, elles ont des noms quelquefois magnifiques, le fleuve Éridan par exemple, ou quelquefois comique, je sais plus, la machine pneumatique. Bon, voilà. Donc, me balader dans ces noms-là, ça excitait mon amour des vocables, quoi.
Alpha du Centaure. Et puis surtout, ça m'a fait réfléchir, enfin, penser que, en fait, ce sont justement les cieux que les Grecs ne connaissaient pas, que Thucydide ne pouvait voir. Et donc là, Thucydide vous envoie bien plus loin, en réalité, que tout ce qu'il a pu voir, lui.
Oui, ça, c'est certain. Oui, on ne voit pas l'ours, on ne voit pas la grande ours, on ne voit pas l'étoile polaire, enfin, bon, qui était le point de repère un peu des Grecs depuis Homère, quoi.
Ces îles éparses, peut-être pour conclure, terminer ce voyage, c'est une absence donc de population, en tout cas autochtone, à part les soldats, mais c'est aussi l'occasion d'un contact justement entre la littérature de voyage, le bateau, et puis la possibilité d'une île. Mais on vous avait pas eu très envie d'y rester parce que c'est compliqué de débarquer, c'est assez inconfortable. On a l'impression que c'est un voyage presque sans objet, à part justement la nature. Contrairement à vos voyages précédents.
Sans objet.
Sans objet autre que justement des
que
oiseaux,
la contemplation, la description.
Ouais.
Je ne vais à la recherche de rien, oui. Et je n'ai pas, quand je me baladais autrefois dans des pays, en Russie ou en Amérique du Sud, etc., j'avais toujours ma petite bibliothèque, j'avais lu beaucoup de choses sur ces pays, d'écrivains de ces pays, etc. Bon, ben là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de littérature. Alors, sauf un épisode qui est quand même assez marrant, c'est que, à un moment, je me trouve sur un atoll qui s'appelle Bassas da India, les bases de l'Inde, bon. Et j'étais en train de lire un livre d'un ami à moi qui s'appelle Jean-Pierre Martin et qui décrit la vie d'un certain nombre de Martins dans l'histoire, bon. Et dont un moine portugais devenu évêque du Japon et qui fait naufrage précisément sur cet atoll et qui manque d'y laisser sa vie. Et donc, voilà, il y avait tout de même un petit rapport ténu de temps en temps avec la chose écrite qui se faisait, quoi.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Jean Echenoz, vous voyagez aussi, mais dans des noms, et notamment dans Bristol, dont on va voir que c'est pas forcément la ville de Bristol, sans doute pas même. Mmh. Il est question d'Afrique aussi, mais pas très loin finalement de ces îles éparses, en réalité.
Oui, parce que moi j'ai toujours eu le désir ou la nécessité de déplacer mes personnages dans des pays lointains, que ce soit l'Inde ou plus récemment la Corée du Nord ou la Micronésie, etc. Bon, mais en général, ce sont des lieux où je ne suis jamais allé. Et en effet, c'est la force et le mystère de certains noms qui peuvent déclencher un désir de fiction sur ces lieux. Ce qui n'est pas ensuite un travail complètement imaginaire, parce que je me documente le plus possible chaque fois pour une certaine vraisemblance. Et puis, la documentation produit de la fiction souvent. Mais il est arrivé que je parte sur zone, si je peux dire. Pour certains livres, pour un livre qui s'appelle Les Grandes Blondes, j'ai passé pas mal de temps en Inde du Sud. Et je me souviens que vous évoquiez tout à l'heure la ville d'Iquitos. Là, j'y suis vraiment allé et me trouvant là face à un lieu authentiquement romanesque. Enfin, qui avait une bizarrerie, une singularité qui... je pouvais pas ne pas l'utiliser ensuite dans un livre. Ça, c'était pour un autre...
Piano, non, c'est ça,
Pour au piano, oui. Mais la plupart du temps, c'est un travail sur des cartes. Je cherche des photos, des photos, des films. Je fais des interviews de voyageurs. Je lis beaucoup de choses, etc. Mais là, comme dans la plupart des romans précédents, ça se passait donc plutôt du côté de l'Asie. Je me suis dit que j'avais toujours négligé l'Afrique. Il était temps que je m'en occupe un peu. Et là, je suis véritablement parti uniquement sur des noms. Parmi lesquels celui qui figurait dans c'est un souvenir d'enfance de Rudyard Kipling dans les histoires comme ça. Il y a un des récits de ce recueil qui s'appelle L'enfant d'éléphant, se passe sur le fleuve Limpopo. Je me suis dit, bon ben voilà, partons sur le fleuve Limpopo. Et à partir de là, j'ai bien été obligé de... Il fallait que ça se passe là où il coule, c'est-à-dire notamment au Botswana. Et donc, de fil en aiguille, on arrive à une espèce de reconstitution géographique imaginaire, mais que j'essaie de rendre la plus précise possible, avec des débordements, parce qu'il faut qu'il y ait un peu de fiction, quand même.
Mais Jean Echenoz, est-ce que c'est cet aspect géographie imaginaire qui commande le roman Bristol? Parce qu'on a l'impression qu'un roman qui commence par la chute, c'est-à-dire juste, enfin, si je peux me permettre le jeu de mots, est entièrement basé sur des questions, justement, voilà, d'imaginaire, d'impossibilité, d'une forme de réalité qui sont celles aussi du cinéma.
Ah bah, de toute façon, la référence au cinéma était un peu présente dans tous mes livres, peut-être pas de façon explicite, mais enfin j'essayais d'utiliser des techniques, d'importer des techniques du cinéma dans la chose écrite, quoi. Évidemment, c'est pas toujours facile d'importer le fondu au noir ou des choses comme ça, mais enfin j'ai essayé. Mais ayant eu pendant pratiquement tous les livres ce lien à l'image animée et sonore, là je me suis dit que j'allais mettre en scène, si je puis dire, un acteur du cinéma, un metteur en scène réel.
Réel, mais quand même assez inactif.
Ah, réel, mais ça, son caractère s'est un peu imposé comme un personnage à la fois actif et effacé, quoi, et subissant les choses, mais ce qui est le cas de pas mal de personnages de mes livres, qui sont agis plutôt qu'acteurs.
Et oui, alors là, il est presque fantomatique. Son projet reste assez vague. En tout cas, on n'en apprendra pas grand-chose sans dévoiler le...
Oh, c'est ce que j'en raconte qui est assez vague. Son projet est en principe construit sur un scénario précis, avec un découpage technique, ça. Mais là, j'ai pratiqué quelques ellipses là-dessus, parce que ça m'aurait entraîné trop loin. Sur le détail de la pratique cinématographique, c'était pas mon sujet.
Alors, le roman s'ouvre tout près d'ici, de la Maison de la Radio à Paris, dans cette rue des Eaux, qui a aussi un côté assez mystérieux.
D'ailleurs, je crois que c'est en sortant de la Maison de la Radio à plusieurs reprises ces dernières années que je suis tombé par hasard sur la rue des Eaux. Pourtant, j'ai pas mal arpenté le 16e arrondissement. Mais autant certaines rues, j'ai pu l'utiliser, comme la rue Erlanger, qui est d'une banalité noire, c'est cette banalité-là qui m'intéressait. dans un autre livre, autant la rue des Hommes est apparue comme une espèce de théâtre miniature où je pouvais imaginer une mise en scène des personnages. Ça tenait à son architecture, à sa conformation qui est un peu étrange. C'est une fausse impasse qui s'achève sur un escalier un peu inquiétant. Enfin, c'était un lieu romanesque. C'est toujours un peu idiot de définir les lieux.
Mais qu'est-ce que c'est alors justement le romanesque? Parce que j'ai l'impression que le lieu romanesque pour vous, ce rapport entre le nom et sa réalité, ce serait peut-être pas romanesque pour beaucoup de romanciers en réalité.
Moi ça déclenche tout de suite l'idée de personnages évoluant dans ce décor, dans cette architecture, dans cette espèce de bizarrerie, son nom qui est un peu singulier. Non, c'était un détonateur, comme... Dans ce même livre, dans Bristol, l'idée de travailler sur l'Afrique était un autre détonateur. Et d'ailleurs, c'est entre un continent et une ruelle. Je trouvais que l'équilibre était intéressant.
Et Jean Lechnaus, le décor est premier chez vous. C'est-à-dire que ce sont avant tout des impressions, des idées qui vous viennent avant des personnages, par exemple.
Les lieux réels ou les lieux imaginaires sont souvent des moteurs de fiction. Et puis, il faut que, alors ça, j'arrive pas à faire autrement, mais il faut toujours que les personnages se déplacent. Il faut toujours que ça bouge et qu'on passe d'un lieu à un autre. Et la ville de Paris a été très importante pour ça aussi depuis le début. C'est-à-dire que certains quartiers de Paris, certaines scènes observées, certains échanges cueillis comme ça dans la rue, sont des apports, provoquent des désirs de fiction. Ça, Paris était très important.
Jean Lechnaus, j'ai lu Bristol comme un roman sur la fuite, sur les gens qui nous échappent. Donc on n'arrive pas à percevoir un peu la réalité ou la teneur des figures fuyantes comme Roger, l'assistant, justement, un peu flottant.
Oui, encore une fois, c'est des personnages... J'ai un peu de mal avec les personnages harmonieux, avec les personnages qui réussissent, les vainqueurs, ça m'ennuie un peu en règle générale. Donc je préfère que ce soit un homme ou une femme, selon les livres, qui mène un peu chacun des romans, que ce soit des personnages un peu en déshérence, en fuite, dans une recherche improbable. J'aime pas beaucoup cet adjectif.
Improbable.
Non, je l'évite en général. Même disons dans une recherche floue, voilà.
Et Geneviève, alors aussi, voilà, y a un personnage d'autant plus flou qu'il disparaît.
Le personnage de Geneviève.
Oui.
Oh ben elle, si, elle apparaît quand même.
Ouais,
oui.
C'est aussi un roman sur le.
Oui, les personnages peuvent avoir des éclipses et puis on peut les retrouver sous une nouvelle apparence, dans de nouvelles fonctions. Il faut que ça bouge aussi dans la vie des gens, pas seulement dans la géographie.
Pour revenir au cinéma, dans Bristol, l'image du cinéma est pas non plus extraordinairement positive. On n'en fait pas quelque chose de... C'est pas le glamour d'Hollywood, la puissance de persuasion des images. Non, c'est plutôt l'envers du décor.
Oui, c'est encore une fois, j'avais pas envie de travailler sur un personnage de cinéaste victorieux et accumulant les succès, mais ça m'intéressait plus de travailler sur, enfin de mettre en scène. Un artisan un peu mineur de cette industrie, et au lieu de se pencher sur un film à succès, de se pencher sur le devenir pas terrible d'un film qui finalement n'aura aucun succès. L'échec est plus intéressant que la réussite, quand même. Dans les romans qui importent pour moi, enfin, je pense au roman de Flaubert, ce ne sont que des chroniques d'échecs, au fond.
Si je peux me permettre, juste, la description des critiques qui quittent la salle après la projection de presse, là, est absolument magnifique. Je veux surtout éviter de rencontrer le réalisateur, l'attaché de presse, etc. C'est magnifique.
Oui, et ça semble assez réaliste d'éviter, justement, d'avoir à dire à quel point on a été témoin d'un échec.
J'ai été...
Non, je parle des critiques de...
Ah, les critiques
Cet embarras qui vous prend parfois quand vous êtes, voilà, vous êtes face à justement.
Il m'est arrivé j'avais jamais fait ce rapprochement, mais il me revient maintenant. Il m'est arrivé de voir un film qui avait été tiré d'un de mes livres et je suis sorti le plus discrètement possible, en prétextant un rendez-vous urgent. Non, ça, c'est des situations délicates, oui.
Mais Jean Echenon, vous avez beaucoup écrit aussi pour le cinéma. Vous avez pratiqué l'écriture de l'adaptation du sud.
Non. En vérité, non. J'avais, avant d'écrire mon premier roman, j'avais travaillé avec un ami, j'avais co-écrit un scénario d'un film qui n'a eu aucun succès d'ailleurs, qui était intéressant, sur lequel je me souviens que Jérôme Lindon disait « il y a trop d'idées ». Ça pouvait paraître un hommage à...
Oui, une contradiction, enfin, à, en tout cas.
Il y en avait trop. Et, bref, non, mon rapport à la production de scénarios était très très limité. À ce film, ensuite, pour l'adaptation d'un autre roman, j'avais un tout petit peu participé au dialogue. Et j'ai eu tort, parce que je crois que le dialogue cinématographique n'a strictement rien à voir avec le dialogue romanesque, et non plus avec le dialogue théâtral. Je veux dire, le seul rapport entre eux, c'est le mot dialogue. Je pense que ça n'a pas le même poids, pas le même équilibre, pas la même densité, pas la même fonction.
D'ailleurs, dialogue que vous pratiquez peu, d'ailleurs, Jean Echenoz, dans le... Enfin, disons, dialogue tel qu'on le conçoit, tirer...
J'ai renoncé il y a longtemps au tirer à la ligne, parce que ça me paraissait justement quelque chose d'un peu artificiel, et je préfère, dans le déroulement d'un récit, d'une action, insérer les dialogues au même titre que des éléments de description ou d'action.
C'est d'ailleurs un point commun entre vos deux écritures. Depuis, ça fait vous aussi longtemps que vous avez renoncé
au
dialogue.
Je crois que je n'ai jamais écrit de dialogue.
Avoir lu dans les livres d'Olivier ce procédé du tirer à la ligne, qui était au départ une forme classique et qui, au bout d'un certain temps, m'a paru fausse, m'a paru artificielle et inutile surtout.
Et inutile peut-être justement parce qu'elle est d'un autre langage, celui du théâtre ou du cinéma, mais peut-être pas du roman tel qu'il est allé en se concentrant dans les 20 ou 30 dernières années.
Oui, mais encore une fois, la parole rapportée dans un roman n'est pas du tout la même que celle qu'on peut inventer dans un dialogue scénique ou cinématographique. Dans un film, on peut imaginer une réplique absolument banale. Je veux dire que, je sais pas, t'as de beaux yeux, tu sais, devient une réplique universelle. Alors que vous mettez ça dans un roman, je suis pas sûr que c'est le moindre effet. Donc, je veux dire, il y a une.
Il y a beaucoup de romans qui se vendent beaucoup et qui doivent être plein de répliques comme ça.
Mais parce que le dialogue cinématographique, c'est une parole articulée. Là, moi, j'ai travaillé, et puis je travaille encore sur des livrets d'opéra, où évidemment la fonction et l'articulation de la parole est totalement différente de celle qu'on peut utiliser dans une fiction écrite.
Alors quelque chose, Olivier Rollin et Jean Echenoz, qui vous rapprochent, c'est aussi l'humour, on vient de l'entendre, mais il y en a aussi beaucoup dans vos livres, et que ce soit une forme d'autodérision, ou en tout cas de facilité à rire de soi dans vos récits de voyage à la première personne, Olivier Rollin, dans Vers les îles éparses, ou un humour extrêmement subtil et très très ironique, mais en même temps très drôle dans Bristol, Jean Echenoz. Est-ce que vous riez en écrivant, ou est-ce que ça vous vient naturellement sans même vous en rendre compte, cette facilité à...
Je ne me suis jamais entendu rire en écrivant. Non, d'autant plus que quand on essaie de mettre au point quelque chose d'ironique, enfin qui a vocation d'être un peu drôle dans le récit, c'est un travail très très précis,
c'est très sérieux
et on prend beaucoup plus à cœur et au sérieux cette fabrication là que si on écrivait un épisode dramatique, où ça peut aller tout seul. Peut-être qu'on pourrait rire plus facilement en écrivant un épisode dramatique. Mais ça ne m'est jamais arrivé.
Olivier Rollin.
Non.
Je vous vois rire.
Oui, non, mais je confirme, enfin, je suis d'accord. Non, je ne ris pas à mes propres blagues. Mais en revanche... Ça ne vient pas comme ça immédiatement, en général. C'est un peu de travail, quoi. Mais en revanche, à certains moments, oui, j'ai conscience, je me dis, tiens, ça, c'est pas mal. Oui. Ça, c'est plutôt drôle. Voilà, oui, je, quand même, c'est pas tout à fait le hasard, quoi. Voilà. Bon, mais de là à rire de mes... Non, de rire aux éclats
de
mes...
Rire de ses propres plaisanteries est totalement inélégant.
Voilà, c'est assez inélégant, oui. Mais ce que je voulais dire, juste à propos du livre des livres de Jean en général, mais notamment de celui-ci, c'est que C'est pas simplement les situations qui sont drôles, quoi, comme on dit, farcesques, etc. Mais le plus important, c'est que la langue elle-même est extrêmement joueuse, quoi. Enfin, il y a plein de farces et attrapes. Enfin, quand je dis farces et attrapes, de jeux, quoi, qui sont à l'intérieur de la langue et qui font qu'elle est elle-même un objet, intéressant, divertissant, surprenant, voilà.
Oui, mais on se demande justement si derrière, j'en suis à peu près sûr d'ailleurs, il n'y a pas un énorme travail de la phrase justement qui permet, voilà, où il faut enlever beaucoup pour parvenir à des éclairs drôles ou ironiques.
Oui, c'est un travail assez minutieux sur la sonorité, sur le rythme d'une phrase, sur son équilibre ou son déséquilibre délibéré, sur le son. Moi, il m'est arrivé de changer des noms de personnages parce que ils ne collaient pas avec le verbe qui suivrait. Enfin, il faut éviter des hiatus ou provoquer des hiatus qui peuvent me paraître intéressants. Mais s'il y a un travail sur les phrases qui est peut-être plus minutieux que le travail que je consacre au scénario, pour parler vite.
Mais vous aussi, Olivier Rollin, le travail de la phrase, c'est quelque chose qui vous occupe. Vous avez du temps là sur ce voyage en bateau, mais pas uniquement là. C'est aussi une de vos grandes affaires, ça, la puissance de la phrase. Qu'elle aille vers l'humour ou qu'elle n'y aille pas. Mais...
Ah ben, oui, bien sûr, oui. Enfin, d'abord, je n'ai pas écrit le livre. J'ai pris des notes sur le bateau, etc. Mais je l'ai écrit plus d'un an après, en relisant mes notes. Enfin bon, et la mise au point des phrases, c'est bien. Oui, c'est longtemps après. Il faut que dans les notes qu'on prend, il y a un truc, un machin, quoi, une étincelle à partir de laquelle on va pouvoir retravailler ensuite. Mais c'est ensuite qu'on travaille. Faut pas faire croire non plus que, enfin, il faut pas que ça prenne un côté tragique. C'est un travail qui est agréable quand même. Mais c'est du boulot. Enfin, c'est de l'orfèvrerie, quoi. Oui.
Alors quelque chose qui vous sépare peut-être, c'est un rapport à la première personne et à une façon que vous avez dans des récits de voyage, par exemple Olivier Rollin, de vous mettre en scène avec humour, autodérision, mais néanmoins c'est vous. Et en revanche, Jean Lachenaud, ça vous arrive que rarement, même jamais pratiquement, dans vos romans, de parler de vous directement.
Bah, non, parce que c'est pas très intéressant. mais ce que je peux faire, et peut-être plus dans ce livre, dans Bristol, que dans les précédents, c'est de varier des points de vue, d'utiliser un nous ou un je qui est pas du tout évidemment forcément moi, mais qui peut être un témoin de l'action, une caméra imprévu, le lecteur lui-même. En même temps, j'ai horreur de l'idée du clin d'œil au lecteur. Je déteste cette expression, mais en même temps, on parle toujours plus ou moins de soi parce que tous les romans sont pleins d'éléments autobiographiques, mais brisés en mille morceaux et remontés dans un autre sens.
Oui, comme on le disait de Iquitos, par exemple, tout à l'heure, cette ville que vous connaissez et sur laquelle vous avez écrit. Mais on a l'impression, Jean Lachenaud, qu'il y a quand même toujours un... Vous êtes derrière la caméra, mais vous avez besoin d'acteurs quand même. Même si vous leur dites ce qu'ils doivent faire, vous mettez pas devant la caméra.
Ah, je délègue. Oui, je délègue. Moi, je suis pas assez. Je pense pas présenter assez d'intérêt pour. Mais moi, ce qui m'a frappé dans l'évolution des livres d'Olivier Rollin, c'est cette distance qui apparaît de plus en plus et cet humour, même quand. Dans Vider les lieux, par exemple, qui n'est pas le livre le plus... qui n'est pas un livre forcément d'une expérience très joyeuse. Il y a cette distance et c'est cette évolution que je trouve frappante dans les livres d'Olivier.
Vous dites je me mets en scène, mais enfin, en effet, en général, quand je me mets en scène, c'est quand même d'une façon ironique, dans une situation un peu ridicule ou que je fais une gaffe, etc. C'est pas que je me célèbre, quoi. Mais d'autre part, j'ai écrit, en fin de compte, assez peu de véritables romans. Dans les romans, je ne me mets pas en scène. Bon, en revanche, dans les récits de voyage, c'est inévitable, c'est un récit de voyage, bon. Mais, ou dans des livres, enfin, je pratique aussi le genre de l'enquête, disons. Et c'est vrai que dans l'enquête, je trouve que c'est que cela fait partie de la règle du jeu, de l'honnêteté, quoi, d'une certaine façon, de présenter l'enquêteur, y compris ses, voilà, justement, ses errements, ses erreurs, etc. Enfin, voilà. Donc, mais dans un roman, je ne me mettrai pas en scène, et notamment, genre, je suis d'accord avec toi, genre, le clin d'œil au lecteur, la prise à témoin du lecteur, etc., tout ça est affreux, quoi.
Mais pourquoi?
Ben, je sais pas, parce que il y a des choses qui
c'est pas, ça me paraît, oui, ça paraît inélégant, quoi. C'est ouais. pas, c'est
parce que c'est franchir ce code, en fait.
Le coup de lecteur, je trouve ça un peu, je sais pas, un peu dégoûtant, quoi.
C'est un peu franchir vulgaire, une forme, c'est franchir une forme de barrière, justement,
oui.
un peu,
oui,
comme si on sortait de l'écran.
Comme, je sais pas, j'ai l'impression qu'on travaille quand même pas mal sur la distance, aussi bien Olivier que moi, et de façon différente, ça voudrait dire abolir cette distance pour une espèce de truc démagogique, mais non c'est très déplaisant, cette idée de donner un coup de lecteur pour le prendre à témoin de ce que, de ses propres plaisanteries, c'est
captatio benevolentiae.
Oui, ça c'est au début. Ça, ce serait au début. Ça, on a le droit au début du discours, d'après Cicéron, si je me trompe pas. Et Olivier Rollin, pour finir sur une note peut-être plus positive dans ce rapport au lecteur, le récit de voyage, c'est justement l'occasion de communiquer directement une expérience vécue de ce plaisir un peu indicible du voyage qui finalement ne se réalise que dans les livres.
Oui, mais enfin, je veux dire, on fait pas des... Enfin, quand je fais un récit de voyage, j'aime pas beaucoup, d'ailleurs, je préfère dire impression de voyage, enfin bon, peu importe. Mais on fait pas un guide touristique, enfin, je veux dire, ce à quoi on fait participer le lecteur, si c'est pas très raté, c'est au plaisir des mots, enfin, c'est à la beauté des mots. Je veux dire, je ne prétends pas apprendre, même s'ils apprendront des choses sur les îles Éparses, par exemple, mais ça n'est pas pour les emmener là-bas, etc. C'est pour, non, c'est parce qu'il faut qu'une fois que la description d'un crabe ou d'un oiseau, qu'elle soit belle en soi, enfin, que ce soit les mots qui plaisent, voilà, c'est dans les mots qu'on fait voyager, quoi. À propos d'oiseaux, alors je suis sûr que je vais te coller. Il y a un point commun entre ton livre, ton dernier livre et le mien, tu sais ce que c'est?
Non.
Les stermes, les oiseaux.
Ah oui, voilà. Oui, j'ai utilisé les stermes. Oui.
Qui sont de très beaux oiseaux avec un nom d'écrivain.
Bah oui, parce que quand même Tristram Shandy est très présent tout le temps.
Merci beaucoup, Jean Schnoz.
Merci.
Merci, Olivier Rollin. Vers les îles Éparses est paru aux éditions Verdier et Bristol aux éditions de Minuit. La conversation littéraire est réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Pierre-Henri à la technique aujourd'hui. La préparation en est assurée par Aurélie Marsay. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure. Et d'ici là, vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster la conversation littéraire sur l'appli de Radio France et le site web de France Culture. Bon week-end sur France Culture.